Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net.
Luther disait « Sola Scriptura », seulement l'Écriture et que la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous croyons, vous et moi, qu'elle est inspirée de Dieu. Nous croyons que les hommes qui ont écrit cette parole ne sont pas des pensées d'hommes, mais des pensées de l'Esprit de Dieu. Alors gardons, par rapport à cette doctrine-là, ce que dit l'Écriture. Nous allons d'abord aller voir l'apôtre Paul, qui va nous dire tout à fait le contraire de ce que nos doctrines d'Église disent, que quand on vient à Jésus, que tout est terminé, que tout va bien, que tout va très très bien, que l'ennemi n'a plus de pouvoir sur nous, que tout va très bien, madame la marquise, vous pouvez dormir tranquille, même si vous faites des sauts dans le lit la nuit, peu importe, le Seigneur est avec vous. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 2, et versets 14 à 16, et puis suivant, va nous dire de certaines choses. Est-ce que vous croyez que l'apôtre Paul a été inspiré de Dieu? Est-ce que vous croyez que l'apôtre Paul était inspiré de Dieu? Alors, s'il était inspiré de Dieu, l'apôtre Paul, lui, dans son discernement spirituel, a fait une distinction au niveau des chrétiens. Au cours de son périple humain et apostolique, il a été confronté à plusieurs types de chrétiens. Et dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16, il va nous citer les trois catégories de chrétiens qu'il a rencontrés. Verset 14, « Or, l'homme animal, c'est-à-dire l'homme charnel, ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folies, il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. Mais celui qui est spirituel discerne toutes choses, mais lui n'est discerné par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour qu'il l'instruise? Mais nous, nous avons la pensée de Christ. Et moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. » Il s'adressait aux Corinthiens. Il disait clairement que l'église de Corinthe était comment? Elle était spirituelle? Elle était charnelle. « Comme à des petits enfants en Christ, je vous ai donné du lait à boire, non pas de la viande, car vous ne pouviez pas encore la supporter, et même maintenant encore, vous ne le pouvez pas, car vous êtes encore charnel, car puisqu'il y a parmi vous de l'envie et des querelles, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas à la manière des hommes ?» C'est clair que Paul distingue trois catégories d'enfants de Dieu, ou trois catégories de chrétiens, pas enfants de Dieu, chrétiens. Parce que dans le mot chrétien, on met tout ce qu'on veut. Mais enfant de Dieu, on met pas tout ce qu'on veut. Un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, il vit par l'Esprit, il marche par l'Esprit, il est conduit par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est un vrai enfant de Dieu. Mais Paul va faire le distinguo entre trois catégories de chrétiens. Des chrétiens charnels, qu'il appellera les chrétiens sarkikos, sarx en grec veut dire chair, kai et ma et sang, chair et sang, c'est l'homme naturel. Il fera le distinguo entre une seconde catégorie de chrétiens qui va l'appeler les chrétiens psychikos, des chrétiens qui vivent par les sentiments de leurs âmes, et puis il va faire une troisième distinction de catégorie de chrétiens en les nommant pneumatikos. Ça veut dire des chrétiens spirituels remplis de l'Esprit de Dieu. Donc déjà, Paul fait ce distinguo entre trois types de chrétiens qui peuvent être dans les églises. Des chrétiens charnels, des chrétiens sentimentaux, qui vivent avec les sentiments de leur âme, qui sont influencés par les sentiments de leur âme, et qui par leurs sentiments, vont peut-être même couvrir certains aspects négatifs d'une autre personne, par leur apitoiement, par leurs choses comme ça, et qui sont plus dominés par les sentiments de leur âme que par l'Esprit de Dieu. Et puis il y a ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui discernent toutes choses. Donc ce préambule étant établi, nous allons voir maintenant un cas dans l'Écriture, un cas que vous avez peut-être lu, mais sur lequel nous devons nous pencher sérieusement. Ce cas d'un certain chrétien qui a cru et qui a été baptisé alors qu'il a annoncé l'évangile, par lequel l'évangile a été annoncé, c'est-à-dire un gars qui a entendu un évangéliste prêcher, qui a cru et qui immédiatement après a été baptisé. Nous allons voir ce passage dans l'Écriture. Nous le retrouvons dans Actes chapitre 8, versets 5 à 24. Regardez bien ce passage, regardez bien ce texte, parce qu'il y a nombre de chrétiens qui sont dans ce cas-là. Actes chapitre 8, versets 5 à 24. Philippe dit l'évangéliste, étant descendu dans une ville de la Samarie, leur prêcha Christ. Déjà, aller prêcher en Samarie le Christ, ce n'était pas une chose facile, car les Samaritains étaient ennemis des Juifs. Ils avaient leur temple au mont Garizim, ils avaient la loi comme les juifs, mais ils avaient des façons différentes d'aborder la foi. Donc ils étaient ennemis des juifs et aucun juif ne passait en Samarie. Quand un juif devait se déplacer en Israël, il prenait soin d'éviter toute la Samarie. Parce que rentrer en Samarie, c'était se souiller. Donc vous comprenez que Philippe, là, l'évangéliste, lui va aller là où personne ne voulait aller. Alors, était-il conduit par l'Esprit de Dieu ? Certainement au départ, il était conduit par l'Esprit de Dieu dans ce qu'il faisait. Et nous allons lire les versets précédents parce que c'est intéressant de les lire. Dans Acte 8, pour avoir un bon ensemble de ce passage, il est dit que, à partir du verset 4, ceux donc qui avaient été dispersés allaient ça et là annonçant la parole, et Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, leur prêcha le Christ. Donc Philippe est allé annoncer l'évangile dans une ville en Samarie où il ne faisait pas bon d'y aller parce que les Samaritains étaient opposés aux Juifs et les Juifs aux Samaritains. Et les foules d'un commun accord étaient attentives aux choses que Philippe disait, l'entendant et voyant les miracles qu'il faisait, car les esprits immondes criant à haute voix sortaient de plusieurs qui en étaient possédés et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville-là. Donc apparemment, la prédication de Philippe avait porté du fruit. Non seulement l'évangile de la grâce du Seigneur avait été proclamé, mais la démonstration de puissance y était aussi, puisque les démoniaques étaient libérés, puisque les malades étaient guéris, les paralytiques et les boiteux étaient guéris. Donc il y avait là une grande joie dans cette ville à cause de la puissance, de la démonstration de puissance de l'évangile et à cause de la parole du Seigneur. Or, verset 9, avant cela, il y avait dans la ville un homme nommé Simon qui exerçait la magie. Qu'est-ce que ça veut dire exercer la magie ? Cet homme-là, il tenait la vue sous son joug, il subjuguait la ville par des démonstrations de puissance diabolique. Non seulement il faisait des opérations magiques, mais il faisait aussi des charmes par les sortilèges. Par exemple, je me suis séparé avec mon fiancé, est-ce que tu ne peux pas me faire un charme pour que je retrouve l'amour de mon fiancé ? Et on va consulter le magicien, ou on va consulter le marabout, ou on va consulter pour qu'il fasse un sortilège, etc. etc. Donc, il avait une certaine puissance diabolique en lui qu'il manifestait, et il tenait toute la ville sous sa coupe. Mais voilà qu'il va avoir une confrontation de puissance entre l'annonce de l'évangile et la puissance de l'esprit et ce Simon le magicien. Ce qui est intéressant, c'est que le mot grec magicien, le mot magos, vient d'un mot chaldéen. Or la Chaldée, c'est Babylone. Par exemple, Rab Mag, on le voit, ou Rab Saké, quand les Babyloniens viennent pour s'affronter avec Israël. Rab Mag, c'était le chef des magiciens. Et le mot magos tire sa racine de ce mot chaldéen mag. Ne vous étonnez pas que quand Babylone a été prise et les magiciens sont partis se réfugier dans la ville de Pergame. Vous vous rappelez, je vous ai raconté un peu cette histoire qui est vraie. Et le grand chef des ponts s'est établi dans Pergame et c'est là où le Seigneur dit, dans cette ville de Pergame, là il y a le trône de Satan. Ça voulait bien dire quelque chose, c'est que tous les magiciens, ceux qui établissaient un pont entre le royaume diabolique de Satan et la terre étaient concentrés dans cette ville-là. Et ce Simon, il était magos, il avait appris la magie, il tenait sa magie de Babylone. Donc il était en plein dans la source démoniaque. Il est dit que Simon, qui exerçait la magie, étonnait le peuple de la Samarie, se disant être quelque grand personnage auquel tous s'attachaient, depuis le plus petit jusqu'au grand, disant « Celui-ci est la puissance de Dieu appelée la grande ». Vous vous rendez compte ? Il mélangeait la puissance démoniaque en l'appelant puissance de Dieu. Attention, c'est souvent comme ça aussi dans l'Église. On croit que certaines démonstrations ou certaines manifestations du Saint-Esprit viennent du Saint-Esprit. En réalité, c'est des manifestations démoniaques. Nous devons avoir le discernement. Le cas d'espèce, l'évangéliste Philippe, là, ne va pas avoir ce discernement. Il va annoncer l'évangile. Il nous est dit que ce fameux Simon, le magicien, qui était là, que lui aussi, au verset 13, il crut. Lui-même crut. Mais quand ils eurent cru, verset 12, Philippe, qui leur annonçait les bonnes nouvelles touchant le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, tant les hommes que les femmes furent baptisés. Et Simon crut aussi lui-même. Et après avoir baptisé, il se tenait toujours auprès de Philippe. Première question que nous pouvons nous poser. Quelle est la qualité de cette conversion? Apparemment, quand nous nous arrêtons là, il crut et il fut baptisé. Pour nous, on dira, c'est un véritable chrétien. Vrai ou pas? Ce sont le béaba, les rudiments de la foi, après avoir cru, mais il n'est pas dit dans le texte qu'il s'était repenti. Il n'est pas dit dans le texte qu'il s'était repenti. Il est dit qu'il crut lui-même et qu'il a pris le train des baptêmes immédiatement. Mais s'était-il réellement repenti, ce Simon le magicien? Parce que vous allez voir que Simon le magicien, il a un impact jusqu'à nos jours dans la religion. Jusqu'à nos jours, on va voir ça. Donc, il est dit que Simon lui-même crut et fut baptisé. Il se tenait toujours auprès de Philippe, et voyant les prodiges et les grands miracles qu'il se faisait, il était dans l'étonnement. Donc il crut, il fut baptisé, il était à côté de Philippe, mais il était dans l'étonnement de voir les miracles de Dieu qui surpassaient, et la puissance de Dieu qui surpassait la puissance de Satan. Nous nous posons la question, combien de chrétiens ont cru, ont été baptisés, et n'ont jamais été dans la repentance pour les liens de leur vie passée? Je suis en train de briser ce matin un lien très fort dans la mentalité chrétienne, dans le nom de Jésus. Je brise cette mentalité chrétienne qui dit, parce que j'ai cru en Jésus, que c'est terminé pour ma vie, que maintenant je ne risque plus rien. Si le sang de Jésus est venu me purifier de tout péché, il m'a donné la vie. Mais en donnant la vie, Jésus dit à l'Église, maintenant vous, Église, déliez-le. C'est bien le cas de Lazare au tombeau. Déliez-le, déliez-le. Déliez-le de ce lien. Parce que, frères et sœurs, quand ce Simon le magicien, voyant Philippe faire ses miracles et ses prodiges par la puissance de Dieu, est-ce qu'il crut et fut baptisé lui-même parce qu'il avait reçu la vraie foi, ou il crut, il fut baptisé pour rentrer, n'est-ce pas, dans la même perspective que ce que faisait Philippe? Je vais vous donner un témoignage, et Yvette va attester ce témoignage que nous avons vécu à Abidjan. Il y a eu une affaire à Abidjan, très sérieuse, où des pasteurs, pour avoir de la puissance, sont allés consulter des sorciers. Tu te rappelles de cette histoire? Et les sorciers leur a communiqué la puissance de Satan. Et voilà que les gens tombaient, soit j'ai dit les gens étaient guéris, les églises se remplissaient. Un pasteur, deux pasteurs, trois pasteurs, cinq pasteurs, 10 pasteurs ont fait le même topo. Jusqu'au jour où les sorciers ont dit publiquement que ces pasteurs étaient venus pour chercher la puissance entre leurs mains. Alors vous avez vu le scandale que ça a pu faire là-bas en Côte d'Ivoire, cette histoire-là. Et certains pasteurs sont encore en prison aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'ils étaient venus chercher? La puissance, pourquoi faire? Pour attirer les âmes, pourquoi faire? Pour captiver les âmes, pourquoi faire? Pour prendre l'argent aux âmes, pourquoi faire? Pour avoir la puissance et la gloire, pourquoi faire? Pour avoir une Mercedes, pourquoi faire? Pour avoir une belle maison, pourquoi faire? Pour assujettir les âmes. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Il nous est dit, Simon crut aussi lui-même, mais il crut en quoi? Il crut en quoi, ce Simon? Et il fut baptisé, pourquoi? Nous savons bien que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend est la parole de Dieu. Mais pour venir au Seigneur, ne faut-il pas être convaincu qu'on est pécheur? Poursuivre le Seigneur, ne faut-il pas entendre le message de la croix et comprendre que Jésus a pris nos péchés et nos iniquités, et qu'il est mort à cause de nos péchés et de nos iniquités, et que le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui, et que ces meurtrissures, que nous sommes guéris? Est-ce que Simon le magicien a entendu ce message? Est-ce qu'il a été convaincu de péché par le Saint-Esprit? N'est-ce pas l'évangélisation d'aujourd'hui où on dit aux gens, allez, vous avez entendu ma belle prédication, venez, on va prier pour vous, une petite prière, ça y est, tu es enfant de Dieu, alors on va te baptiser dans 3 mois, et quand tu seras baptisé, maintenant tu es un enfant de Dieu, parce que si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas enfant de Dieu. Voilà une autre fausse doctrine. Le baptême n'a jamais sauvé personne, c'est Jésus qui sauve. Le baptême, c'est que l'assimilation à la mort, à l'ensevelissement, à la mort et à la résurrection avec Christ. Je suis identifié avec le Christ. C'est ça le baptême. C'est pas parce que tu te trompes dans l'eau que tu es sauvé, mais tu rêves. Et c'est là, frères et sœurs, qu'on a besoin de la complémentarité des ministères. Ok, si l'évangéliste manque de discernement, peut-être que l'apôtre qui viendra va lui faire comprendre qu'il a foiré dans le coup. Peut-être qu'il y a des frères qui ont des discernements supérieurs ou des sœurs, des discernements supérieurs à certains frères. Il faut bien se rendre à l'évidence que Philippe, parce qu'il avait prêché l'évangile et parce que le magicien se tenait à côté de lui, que c'était gagné, qu'il avait cru, qu'il avait été baptisé, que l'affaire était terminée, que c'était un vrai enfant de Dieu. Combien de légions de chrétiens qui sont venus à Christ avec un tel procédé? Qu'on mette en avant que Jésus guérit, Jésus délivre, etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une réalité du royaume des dieux. Mais on ne peut pas vivre sa vie uniquement posée là-dessus. Il faut que le départ de la foi soit un bon départ, qu'il y ait une solide fondation pour bâtir sa maison convenablement devant Dieu. Verset 14, il nous est dit, « Or les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, envoyèrent Pierre et Jean, qui étant descendus, prièrent pour eux pour qu'ils reçussent le Saint-Esprit. » Car ils n'étaient pas encore tombés sur aucun d'eux, mais seulement ils avaient été baptisés pour le nom du Seigneur. Puis ils leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint.
Or, Simon le magicien, voyant que l'Esprit Saint était donné par l'imposition des mains des apôtres, leur offrit de l'argent.
T'as vu la base de la conversion? Il crut, il a été baptisé, il va offrir de l'argent pour recevoir le don qui permet de recevoir le Saint-Esprit. Mais quelle confusion! Quelle confusion dans l'Église du Seigneur! Quelle confusion, les gens qui viennent dans les églises pour la première fois. Et alors, on est animé de bons sentiments, on va annoncer l'évangile. Mais quel évangile qu'on annonce? Un évangile pour faire des prosélytes ou un évangile pour faire de véritables enfants de Dieu? Toute la question est là. Tu peux témoigner de tout ce que tu veux, mais ton témoignage n'est recevable s'il est en harmonie avec la façon dans laquelle tu vis. Il dit, il crut lui-même, mais je ne sais pas quelle sorte de croyance il a eue. Il fut baptisé. C'est pas un problème. Si tu veux, on va se baigner ensemble. On dresse la piscine, on te met dedans. Mais lorsque nous baptisons quelqu'un, on s'est assuré auparavant que sa démarche était vraie. Parce que dans nos églises, dites évangéliques, aussitôt dit, eh bien, aussitôt fait. Tu crois, on te baptise tout de suite. Allez, vas-y. Et puis les personnes continuent, les malheureuses, à être sous la domination d'esprit, sous la domination de liens qu'elles ont contractés dans leur vie, peut-être par hérédité, peu importe, vous les voyez, c'est des personnes qui se réjouissent pas du tout. Elles n'en ont aucune espérance. On leur a annoncé le Dieu de la bénédiction, mais ce Dieu-là ne les bénit pas, parce que conformément à la parole du Seigneur, ils n'ont pas été enfantés comme la parole de Dieu voulait qu'ils soient enfantés. Or Simon, voyant que l'Esprit Saint était donné par l'imposition des mains des apôtres, leur offrit de l'argent. Alors, frères et sœurs, quelle était l'intention de ce Simon le magicien? C'est de continuer à manifester la puissance, mais sous une autre appellation. On quitte l'appellation diabolique, on met l'appellation divine dessus, mais en réalité, puisque le cœur n'était pas converti, il voulait manipuler la puissance de Dieu à son profit. Il voulait continuer à maintenir cette ville de Samarie sous sa puissance et sous son autorité. Qu'on ne me dise pas ce matin, et qu'aucun pasteur s'y se trouvait ici ce matin qui vienne me dire à moi que les gens, que l'évangile que nous prêchons est le vrai évangile. L'évangile qui est prêché aujourd'hui dans notre génération, c'est un évangile édulcoré, c'est un évangile dilué, pour que ça ne dérange pas trop les gens, n'est-ce pas, qu'ils soient dans les églises, assis sur des chaises, qu'ils donnent leur dîme, mais nullement l'intention de les remuer dans leur conscience. Qu'est-ce qui fait partir les gens? C'est quand la vérité les touche et qu'ils ne veulent pas obéir à la vérité du Seigneur. Ou ils diront, mais ce pasteur, il est trop dur. Il est trop dur, ce pasteur. Mais frères et sœurs, la parole de Dieu n'est-elle pas dure? N'a-t-elle pas des aspérités sur le... C'est comme un couteau. Tu ne passeras pas le couteau sur l'autel. Tu feras un caillou tranchant, aiguisé. La parole de Dieu, elle divise, elle sépare. Elle est énergique, elle est vivante, elle est aussi tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle divise quoi? L'âme de l'esprit. Elle va jusqu'aux jointures et jusqu'à la moelle des os. Elle va là où tu n'as même pas accès. C'est-à-dire la moelle des os qui est dans l'os, la parole de Dieu, elle va jusque là. Et tout est à nu et à découvert devant Dieu. Tu ne trompes pas Dieu. Car tout au tard, tu verras les fruits de la repentance. Et là, dans ce cas d'espèce, il peut pas avoir de fruits, n'est-ce pas? Parce que la conversion n'y est pas. Hein. Je pense que déjà là, l'évangile du Seigneur, n'est-ce pas? Il était déjà amenuisé. Je pense que déjà là, c'était pas le vrai évangile. Parce que même s'il annonçait le vrai évangile dans la parole, Philippe, il manquait de discernement. Je dis pas que Philippe, c'était un mauvais serviteur de Dieu. Je dis que Philippe manquait de discernement. Et combien d'évangélistes manquent de discernement quand ils annoncent l'évangile? 10 ans.
Donnez-moi aussi ce pouvoir afin que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. Vous vous rendez compte, le culot qu'il a. C'est les pasteurs d'Abidjan. Hein. Demande ce pouvoir, comme ça je dirais qu'ils ont reçu l'Esprit Saint au nom du Seigneur. Mais en fait, la puissance qui va être déversée sur eux, ce n'est pas la puissance du Seigneur, c'est la puissance du diable. Et frères et sœurs, et combien de pays sont comme ça? Et l'Afrique, et les îles, et de partout dans le monde. Souvenez-vous quand Paul a été à Éphèse. Qu'est-ce qui s'est passé quand Paul a annoncé l'Évangile? Souvenez-vous, frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé? Il a annoncé l'Évangile, il a commencé à manifester la puissance de Dieu. Les hommes et les femmes qui avaient des livres magiques dans leur maison, ils sont venus en place publique, ils les ont fait brûler. Il y avait 50 000 pièces d'argent en valeur, c'était énorme. Ils ont brûlé tous leurs livres de magie. Il n'en est pas le cas pour Simon le magicien, là. Il n'a fait aucun acte de ce type. Il a voulu, n'est-ce pas simplement, se mettre à l'abri et travailler dans les ténèbres encore au milieu des enfants de Dieu, au milieu des chrétiens. Faites attention que dans les églises, il y a des gens comme ça. Hein. Il y a des gens dans l'église, des gens dans les églises qui sont dans de telles positions. Donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. Frères et sœurs, il nous est arrivé au cours de notre périple chrétien avec Yvette de voir des gens qui étaient des faux prophètes et qui imposaient les mains. Et en imposant les mains, ils transmettaient des choses à des gens. Moi, j'en ai vu. Hein. Et alléluia, c'était des prophètes. Des gens qui essayaient, avec leur regard, de vous hypnotiser pour vous mettre sous le contrôle de leur volonté, je l'ai vu. Des gens, des grands serviteurs de Dieu, soi-disant des Canadiens, vous savez les réveils canadiens qui venaient, qui disaient, vous allez voir, fermez les yeux et imaginez les choses et vous allez voir que les choses que vous imaginez vont se réaliser. Mais attends, tu rêves, non? Je te donne des noms, hein. Un nommé La Chance, un Canadien que j'ai vu de mes propres yeux. Il n'avait pas de chance ce jour-là, parce que je suis allé le voir après. Je suis allé lui dire, mes frères, ça, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu, ça. Alors, si vous aviez écouté ensuite, il laissait les gens pendant 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure dans le silence, et tout d'un coup, il disait, maintenant, qu'est-ce que vous avez reçu de Dieu? Mais c'était n'importe quoi. C'était du n'importe quoi. Et comment un pasteur, qui reçoit de tels serviteurs, il n'est pas en droit de se lever, de dire au frère, tu arrêtes, maintenant, c'est fini. Tu arrêtes ton ministère, c'est terminé. Qui pourrait avoir ce courage de se lever? Si tu fais ça, tu fais un scandale dans l'église. Les brebis mal affermées vont dire, mais pourquoi il a arrêté? C'était bien, moi j'avais vu ça. Foutre le camp de l'église. Mais qui partent. Donc donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, parce que tu as pensé acquérir avec de l'argent le don de Dieu. Mais c'est ce que les pasteurs là-bas à Abidjan voulaient faire. Ils voulaient acquérir une puissance de Dieu par Satan pour berner les gens. Et vous croyez que c'est pas vrai, ça? Moi, je connais, excusez-moi, je vais encore peut-être bouleverser quelques-uns ou quelques-unes. J'ai connu des prêtres qui faisaient le pendule. J'ai connu des prêtres qui faisaient de la magie. J'ai connu des pasteurs aussi, hein? Pareil. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi parce que tu as pensé acquérir avec de l'argent le don de Dieu. Tu n'as ni part, ni portion dans cette affaire. Et voilà. Voilà. Le nœud du problème, c'est ça. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Un cœur droit devant Dieu, c'est un cœur qui reconnaît qu'il est pécheur. Un cœur droit devant Dieu est un cœur qui est malléable par l'Esprit de Dieu à la repentance. Un cœur qui est droit devant Dieu, c'est un cœur qui ne va pas s'embarrasser de préjugés ou il va s'humilier devant Dieu. Un cœur droit devant Dieu, c'est un cœur qui est touché par la grâce de Dieu et qui va ouvrir son cœur au Seigneur. Et quand l'Esprit de Dieu vient et nous éclaire, il éclaire quoi? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu éclaire? Nos ténèbres. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Verset 22, qu'est-ce que dit Pierre? Repends-toi. Voilà, on remet les choses à leur bonne place. Repends-toi. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Faut que nous comprenions bien. La repentance n'est pas seulement au moment où nous venons à Christ, mais nous devons vivre constamment en état de repentance vis-à-vis des uns, vis-à-vis des autres. Si quelqu'un a fait quelque chose qui n'est pas bon à son frère, sa sœur, quel mal y a-t-il d'aller demander pardon et de se repentir? En fait, le cœur est dégagé de la chose. La repentance, c'est un état d'esprit. Chaque fois que nous faisons mal, nous devons nous repentir devant Dieu. Car s'il y a une repentance éternelle, il y a aussi un pardon éternel devant Dieu. Et il y a un amour éternel devant Dieu. C'est pas l'euphorie de la parole qui va passer. Au contraire, la parole va nous éclairer. Frères et sœurs, quand nous regardons l'Écriture, quand même, Moi, je ne sais pas, j'ai les mêmes yeux que vous. Nous avons les mêmes yeux, frères et sœurs, que dit l'Écriture. Quand Israël va rentrer dans le pays de la promesse, Dieu dit, ne fais pas comme ces nations-là. Ne fais pas comme eux. Ne va pas là. Ne fais pas ça. Ne fais pas ci. Ne fais pas l'autre. Parce que c'est une abomination. C'est une extrême abomination devant Dieu. C'est une anathème. C'est un crime. Tout ce que vous voudrez, Dieu va le dénoncer. Nous ne pouvons pas venir à Dieu avec tout notre passé, notre carcan, en disant maintenant je te suis, sans être débarrassé de notre passif. Quand tu passes du royaume des ténèbres au royaume de Dieu, il y a comme une frontière. Et quand tu arrives à la frontière, l'Esprit de Dieu, tu dis, tu n'as rien à déclarer, comme à la douane, au Pertus là-bas. Vous n'avez rien à déclarer, comme si le Seigneur ne savait pas tout ce qu'il avait à déclarer. Et si tu ne fais pas les choses comme Dieu te dit, tu vas marcher avec Dieu, tu vas souffrir. Mais Dieu arrivera au bout de ton périple, si tu tiens bon. Dieu t'amènera au bout du périple, mais il va t'amener à te repentir. Tôt ou tard, il faudra que tu rentres dans une repentance. Tôt ou tard, il faudra que tu rentres dans une humiliation de ta vie. Repens-toi donc de cette méchanceté et supplie le Seigneur afin qu'il se faire, si faire se peut, la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Si c'est possible que Dieu te pardonne. Il n'a pas été affirmatif, Pierre, en disant « Dieu va te pardonner ». Si peut se faire que Dieu te pardonne. Car il voit, Pierre, il voit comment ? Spirituellement, il voit. Il voit qu'il est quoi ? Dans un fiel d'amertume et dans un lien. Ce qui le retenait captif à Simon le magicien, c'est sa magie. C'était le lien qu'il avait sur sa vie. Satan le tenait lié par la magie. Voyez-vous, si on est tenu lié par un lien occulte, magique, quel qu'il soit, tant que ce lien n'est pas délié, ta vie ne va pas être bonne devant Dieu. Tu vas avoir des épreuves. Tu vas jusqu'à ce que Dieu te fasse comprendre que tu as besoin de libérer ton cœur. En Afrique, mais en Afrique, cet évangile que tu vous entendais ce matin devrait être prêché. Combien d'Africains sont allés voir les sorciers? Combien d'Africains sont allés voir pour jeter des sorts? Comme ils viennent au Seigneur, mais ils ont besoin de se repentir de ces choses. Car l'ennemi les tient liés. Il faut qu'ils soient déliés de ces choses. Mais c'est pas qu'en Afrique, en France. Nous, c'est pas sorcellerie, c'est parapsychologie, c'est télépathie, c'est télékinésie, c'est des mots scientifiques qui sont si bien aux Occidentaux, des mots derrière lesquels on se cache, n'est-ce pas? Pardon? La sophrologie. Eh bien, celle-là, j'en ai une bien bonne. Je vais vous raconter un témoignage. Ça s'est passé avec moi. Je l'ai déjà dit. Je vais vous la raconter à nouveau. Tant pis si vous, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, ce témoignage. J'avais été opéré d'un genou, ici. Et après cette opération du genou, je devais donc faire de la rééducation. Et je suis allé dans une clinique qui s'appelle la clinique Beau Soleil à Montpellier. Et il y avait un docteur en rééducation qui s'appelait Monsieur Alonso, je crois que c'était ça. Oui, Alonso. Et qui m'a pris en main. Monsieur Lorenz, vous allez voir, ça va, vous allez vite retrouver la mobilité de votre genou. Et moi, je voyais que j'arrivais pas, que c'était difficile, que j'arrivais pas à plier mon genou. Et à un moment donné, au bout de quelques semaines, il vient me voir et me dit, mais c'est pas possible, comment ça se fait que votre genou n'a pas repris ses amplitudes? Je dis, je ne sais pas, moi j'ai l'impression que j'ai mon genou est bloqué. Alors il me regarde comme ça et me dit, oui, vous avez des fibres qui se sont faites sur votre genou et elles bloquent le genou. Donc on va faire une autre méthode. Et il reste à côté de moi. Il me dit, monsieur Lorenz, est-ce que vous aimez vous promener? Ah, je dis oui, mais à l'époque, j'allais me balader du côté de chez où ta maman elle avait la petite maison. Je dis oui, j'aime bien me balader en bord de mer, etc. Est-ce que vous aimez les fleurs? Je dis oh oui, oh, les fleurs, j'aime les coquelicots, tout ça, mais moi, vous savez, c'est des choses qui ne m'intéressent pas de trop. Alors, je lui répondais pour être poli, quoi. Alors, il me disait, ah, c'est très bien. Et puis, il m'entraînait dans mes pensées. À regarder ce qui était bon, ce que j'aimais, etc. Et au moment donné, il m'a pris mon genou. Il m'a brisé les fibres nerveuses de mon genou. J'ai vu les étoiles et là j'ai compris qu'il m'avait fait le coup de la sophrologie. Il a fallu que je le vive pour le comprendre. J'ai dit, écoutez, monsieur Alonso, c'est la dernière fois que vous me faites ça, je ne veux plus que vous me touchiez. Ça, c'était le jour même. Le lendemain, je reviens pour une autre séance. Et puis, c'était 8h du matin, j'entends un grand remue-ménage à l'intérieur du service. Il était au milieu, il y avait des infirmiers et tout ça. Et puis, il est en train de dire, ouais, c'est pas possible. Il y avait une grande effervescence, il était au milieu et puis il n'était pas content, il était en colère parce que le directeur de la clinique lui avait raboté un peu ses budgets. Il disait que je ne sais pas comment faire, etc. Et puis il était au milieu de tout le monde. Et moi, comme je ne manque pas d'humour, je rentre dans le cercle, je vais vers lui. Je dis, monsieur Alonso, imaginez, qu'est-ce que vous aimez le plus?
Vous aimez ramasser les coquelicots, aller en bordure de mer, etc. Et je lui aurais fait le même coup qu'il m'a fait. Monsieur Laurens, il est parti la frapper la porte de son bureau et j'ai plus jamais revu. Je l'avais ridiculisé avec ce qu'il m'avait fait. J'ai dit, imaginez, puis vous allez voir, le directeur, il va. Non, mais imaginez que le directeur vienne vous dire, avec un beau bouquet de fleurs, etc., que votre budget va être à nouveau augmenté, etc. Ah, il a tout de suite vu que le système qu'il avait employé avec moi, j'étais en train de lui faire. Et toutes les infirmières se moquaient de lui. Pour vous dire, frères et sœurs, qu'il faut avoir du discernement pour ne pas se laisser manipuler n'importe comment. Il y a des serviteurs de Dieu, entre parenthèses, qui vont faire toutes choses pour manipuler les âmes. Je les dénonce au nom du Seigneur. Je dénonce ces faux serviteurs de Dieu qui veulent, comme Ézéchiel, tondre les brebis grasses et laisser dépérir les brebis blessées sur les côtés. Je vois que tu es dans un fiel d'amertume et dans un lien. Ceux qui l'ont retenu captif de sa magie, c'est-à-dire l'influence démoniaque sur laquelle il était lié, d'iniquité. Et Simon, le magicien répondant, dit, « Vous suppliez le Seigneur pour moi, en sorte que rien ne vienne sur moi de ce dont je vous ai parlé. » Alors qu'est-ce que c'était ce lien d'amertume? Il était amer, Simon, dans son cœur, de ce qu'il ne pouvait pas avoir cette puissance de Dieu et qu'il ne pouvait pas la monnayer pour se l'attribuer, pour qu'on dise de lui que c'était un grand, celui qui avait la grande puissance de Dieu. Frères et sœurs, on ne peut pas faire passer la puissance de Satan pour la puissance de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Jésus qui l'a dit. Il a dit, si moi, je chasse les démons par le doigt de Dieu, alors le royaume de Dieu est au milieu de vous. Satan, il ne peut pas se diviser contre lui-même. Si je chasse, disait le Seigneur, les démons par Satan, alors le royaume de Satan est divisé contre lui-même. Et Jésus avait raison. Il avait raison. On ne peut pas se cacher derrière des pratiques, derrière des pratiques douteuses, des pratiques dans lesquelles on se substitue à la puissance de Dieu pour dire, regardez, les gens tombent, regardez l'onction que j'ai sur ma vie, regardez ça, et puis ça va rire dans l'esprit. Et puis, frères et sœurs, c'est pas de l'esprit. Vous savez, il y a une chose que j'ai comprise, c'est que les personnes pouvaient être conditionnées par l'état d'esprit qui règne dans une réunion. Seul le bon état d'esprit du Saint-Esprit est valable. Quand l'Esprit de Dieu est là, tu n'as pas besoin de te substituer à l'Esprit de Dieu pour dire que tu as l'onction de Dieu. Parce que si même tu as l'onction de Dieu, ce n'est pas toi qui fais les choses, c'est le Seigneur. Et tu ne peux pas t'ériger comme une idole que tous les gens vont t'adorer parce que tu fais ça ou tu fais ça. Le mot pikria, qui veut dire amertume, est utilisé comme une image pour la corruption de Simon le magicien. C'est une image de la corruption dans laquelle était le cœur de Simon le magicien. Pourtant, il crut, il fut baptisé. Que ça soit un bon enseignement pour vous, mes frères, pour vous, mes sœurs. Ne vous laissez pas tromper par les choses. Vérifiez si les choses viennent de Dieu ou pas. Regardez les fruits, s'il y a les vrais fruits. Ne vous laissez pas emporter, n'est-ce pas, par le désir de voir l'Église se remplir et se multiplier et grandir avec une doctrine qui n'est pas une vraie doctrine venant du ciel. La racine d'amertume, par exemple en Hébreux 12, 15, est un péché non abandonné, capable de produire des fruits amers. L'impudicité, c'est-à-dire des relations sexuelles en dehors du mariage. Un esprit profane, c'est-à-dire préférant les biens de ce monde aux bénédictions spirituelles, comme Ésaü. Non seulement chez le chrétien lui-même, mais aussi dans l'Église. Nous pouvons constater, malgré que Simon eût cru, c'est-à-dire pistis la foi, et pistéo croire, et qu'il reçut le baptême, malgré cette démarche, son cœur n'était pas droit devant Dieu. Car Simon était plus attaché à la puissance qui était manifestée par Philippe sous l'action puissante de Dieu, car une véritable conversion manifestée par une repentance et par une confession de sa magie. Quand tu pratiques de telles choses, l'ennemi a des droits sur toi. Il a des droits sur ta vie. Tu lui as confié une partie de ta vie dans laquelle tu as marché avec lui. Il a des droits. Il faut que ces droits lui soient ôtés dans le nom du Seigneur. Et pour cela, il faut que tu sois d'accord pour que ces liens partent. D'abord, que tu crois que Dieu est capable de te délier de ce lien-là. Et par le moyen de la repentance et de la confession, déjà tu as fait un grand pas vers ta libération. Tu as quitté à Satan les droits qu'il avait sur ta vie. Frères et sœurs, il y a dans l'Écriture ce qu'on appelle le rôle des balancements. Je vais m'expliquer. Il y a des choses qui ont été faites par le Christ et des choses qui nous restent à faire dans notre marche terrestre. Par exemple, il est dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est une réalité en Christ, dans la position de souverain sacrificateur dans laquelle il est. Mais ici en bas, nous voyons bien que nous sommes en train de passer des épreuves, etc., etc., etc. Donc il y a une réalité acquise en Christ et une réalité que nous vivons en bas. Et cela, ça doit être harmonisé. Et ne pas croire que c'est déjà fait et qu'il n'y a plus rien à faire en bas, alors qu'en bas, il y a des choses à faire. Résultat, Pierre, discernant la chose, lui enjoint de se repentir de sa méchanceté. Méchanceté, dans le mot original, veut dire ça, cette malice, ce mauvais vouloir, ce désir de nuire, cette dépravation, cette malignité, afin que, si peut se faire, la pensée de son cœur lui soit pardonnée. Si peut se faire. Alors, c'est là où c'est intéressant. Beaucoup de commentateurs disent, beaucoup, que Simon créa ensuite une nouvelle religion qui intégrait les parties de la religion à mystère de Babylone et la doctrine chrétienne. Je suis désolé, mais dans certaines églises, et je ne veux pas encore les nommer, mais il y a des religions à mystère qui sont dedans, où on se réfère plus à des symboles qu'au Seigneur, où il est dit qu'il l'appela la religion chrétienne. Elle se répandit à travers le monde entier avec une facilité remarquable. Et bien sûr, Satan, il est content quand une église est religieuse et qui, dans son activité religieuse, elle a introduit des parties magiques dedans, avec la foi, soi-disant chrétienne, où on fait croire aux gens que ces symboles-là, ce sont des symboles que le Seigneur aurait donnés à son église. C'est faux ! Faux ! Tous les salamalecres de rites religieux. Jésus n'a jamais fait un rite religieux dans tout son ministère. Vous l'avez vu, vous, à un moment donné, prendre un truc, mettre de l'encens, ou mettre du ci, ou mettre de là, ou mettre... Il est venu, il disait, allez, au nom de mon père, partez! Et ça partait, hein. Il n'y avait pas besoin de Salamalek. Il n'y avait pas besoin de rite derrière lequel on se cachait. Il n'y avait pas de rite emprunté à la religion babylonienne qu'on a introduit dans le christianisme pour tromper les gens. Et combien ces doctrines sont ancrées, et je vais vous le dire ce matin, beaucoup sont liés dans leur esprit par des liens religieux. Les liens religieux les tiennent. Ah, mais si on sort de cette église, on est perdu. Mais tu peux pas sortir de toutes les églises que tu voudras. Si tu suis Jésus, tu n'es pas perdu. La seule vraie église, c'est celle qui est depuis le départ. Oh, j'ai entendu ça, mais regardez un petit peu ce que c'est que l'église d'aujourd'hui. Vous avez vu la confusion qu'il y a dans l'église du Seigneur ? Que ce soit dans des églises catholiques ou protestantes ou évangéliques, la confusion parce qu'il y a Babylone dedans, parce que le système babylonien est dedans. La puissance de Dieu, Simon le magicien, plus la foi, vous croyez que c'est compatible ? Mais on va prendre la foi pour couvrir ça et continuer à pratiquer les choses. Même si tu ignores que les choses que tu pratiques sont démoniaques, mais le Seigneur, il ne nous a pas dit que nous serions ignorants. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Vous ne croyez pas que le Saint-Esprit ne nous éclaire pas ? Vous ne croyez pas que la parole de Dieu ne peut pas être vivante ? On ne peut pas se séparer des choses que l'on croyait être justes et qui étaient fausses en réalité. Et on coupe les choses, on se sépare de ces choses-là. On marche sur le chemin de la lumière, de la vérité. Beaucoup de commentateurs disent, et pas des moindres, Simon créa ensuite une nouvelle religion qui intégrait des parties de la religion à mystère de Babylone et la doctrine chrétienne. Il appela cela la religion chrétienne. Elle se répandit à travers le monde entier avec une facilité remarquable. Mais bien sûr, si Satan il peut noyauter l'église du Seigneur, il a gagné, hein ? Il a gagné pour un temps. Parce que ce n'est pas lui qui bâtit l'église du Seigneur, c'est le Seigneur. Et Jésus a dit, je mettrai tout à nu et à découvert. Je révélerai les trésors cachés des ténèbres. Et combien de fois l'Esprit de Dieu nous a montré, hein, et même dans cette assemblée, nous a montré des gens qui passaient ici et qui étaient des gens douteux dans le Seigneur. Combien de fois ? Résumant le travail de Simon et de ses disciples, Jude 4 montre clairement ce qu'il en est. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes. Écoutez bien. Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Qui s'introduisent furtivement, c'est clair, qui s'est glissé parmi vous certains hommes, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Alors maintenant, je vous pose une question, frères et sœurs. Est-ce que Simon était spirituel ou Simon était charnel ? Comment vous pouvez dire qu'il est charnel ? Comment vous pouvez prétendre qu'il est charnel ? Parce que c'est votre pensée, c'est le résultat de la parole de Dieu qui est en vous, qui vous fait dire ça. Mais que dit l'Écriture concernant cette chose-là? Comment nous allons dire d'une manière fondée et véritable que Simon le magicien était un homme charnel? Eh bien, regardons Galates 5, verset 16. Et vous allez être étonnés. Galates chapitre 5, verset 16. Paul dit, Galates 5, 16, « Mais je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre afin que ne vous pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. » Et voilà qui va énumérer les œuvres de la loi. « Les œuvres de la chair sont manifestes. » Laquelles sont la fornication, ça c'est normal, c'est la chair. L'impureté, c'est la chair. L'impudicité, c'est encore la chair. L'idolâtrie, ah, ça devient un peu plus spirituel. La magie, où Paul a classifié la magie? Dans les œuvres de quoi? Nous pouvons dire que Simon était, il ne s'était pas repenti, il a dit qu'il avait cru, qu'il s'était baptisé, mais en réalité, son cœur n'avait pas changé du tout. Au contraire, il voulait se servir de la nouvelle religion pour former, lui, une nouvelle religion. Il voulait se saisir de l'évangile pour faire sa mayonnaise à lui. L'idolâtrie, il est dit, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivronneries, les orgies et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous déclare à l'avance, comme moi aussi je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, dites-le tous, il y a du souci à se faire. Et maintenant, voyons voir si le cas de Simon le magicien plaisait réellement à Dieu. On va aller dans Romains 8 pour terminer. C'est pour vous dire que les liens... Et nous enseignons depuis maintenant de nombreuses semaines concernant le combat spirituel. Et je voulais ce matin vous montrer que dans l'Écriture, moi je rends grâce au Seigneur que l'Esprit de Dieu a mis de tels cas dans l'Écriture pour nous montrer qui sont les vrais chrétiens et les faux chrétiens, frères et sœurs. Parce qu'il y en a qui sont passés du monde, ils sont venus dans l'Église en disant peut-être que c'est une sécurité là, mais ils n'ont pas changé leur cœur. Romains chapitre 8, versets 5 à 9. Vous connaissez ce texte. Car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit, aux choses de l'esprit. Car la pensée de la chair est la mort, mais la pensée de l'esprit, c'est vie et paix. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu. Alors le mot en grec, c'est ektra. Elle va plus loin. La pensée de la chair est ennemie contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. Et ceux qui sont dans la chair ne sauraient plaire à Dieu. Or, dit Paul, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Et il va rajouter, si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-ci ne lui appartient pas. Ne nous fions pas aux apparences. Ne nous fions pas à ce que nous voyons. Aux démonstrations de spiritualité, parce qu'on frappe des mains ou parce que... Je vous le redis ce matin. Et je vous le redirai jusqu'à la fin, regardez les fruits dignes de la repentance chez une personne, chez un chrétien ou chrétien qui se dit être chrétien ou chrétienne, regardons aux fruits, que personne ne se dit être chrétien, et quand vous les voyez vivre, qu'ils soient un anti-témoignage de ce qu'ils confessent du Seigneur. Aux fruits. Il crut, il fut baptisé, Simon le magicien, il a entendu l'évangile, et pourtant... En finalité, Pierre va lui dire, si peut se faire que Dieu puisse te pardonner les pensées de ton cœur. Si peut se faire, si Dieu le veut, qu'il te pardonne, si c'est possible. Donc nous comprenons bien, frères et sœurs, que la vie d'un enfant de Dieu, c'est la qualité de sa marche, toute sa vie dans le Seigneur. Un enfant de Dieu qui a rencontré Dieu doit prospérer à tous les égards, dans le témoignage, dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans la sobriété de ses paroles, dans son langage, dans son vocabulaire. Si tu dis que Dieu a fait des grandes choses à toi et que de ta bouche sortent des chapelets d'injures, excuse-moi, je mets en doute ta conversion. Car l'Esprit de Dieu ne nous a pas appelés à jurer, il nous a appelés à bénir. C'est pour ça que si tu prétends être Seigneur et que tu me parles dans ta vie comme tu parlerais dans le monde, je peux douter que ta conversion soit réelle. Et permets-moi d'en douter parce que moi, la parole de Dieu m'est claire. Elle ne me laisse pas sans limite, elle ne me laisse pas dans l'ignorance. Hein, quand l'Écriture nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu hein, avec vos paroles, avec vos cris, avec vos insultes. Mais vous étiez pas comme, vous étiez comme ça avant. Maintenant, vous êtes autrement. Vous avez revêtu le nouvel homme. Ne continuez pas à être comme vous étiez avant. Sinon, moi, Paul, je doute que vous soyez et que vous ayez reçu la grâce du Seigneur. Alors, pour ceux et celles, n'est-ce pas, qui veulent marcher droit dans le Seigneur, conformez-vous à la parole du Seigneur, mais ne vous laissez pas embarquer par les apparences des frères et des sœurs, surtout ceux que vous ne connaissez pas, qui viendraient, qui vous diraient, moi, le Seigneur a fait ça pour moi, il a fait ça pour moi, il a fait ça pour moi. Je dis, ben d'accord, c'est bien. Si Dieu a fait ça, c'est bien pour toi. Maintenant, moi, je veux voir ton témoignage. Tu ne mourras pas avec tes paroles, je veux voir comment que tu vis, comment que tu réagis. Et comment peut-on voir les réactions des gens, si ce n'est, comment pouvez-vous voir, vous, les réactions de vos enfants, si ce n'est pas la manière dont ils vivent dans la famille? L'Église est une famille. C'est là où nous voyons si la conversion est réelle. C'est là où nous voyons si la parole de Dieu a touché des points de nos cœurs dans lesquels eh ben, nous manifestons la grâce et l'amour du Seigneur. Mais Paul dira, je vous le dis, ne marchez pas selon la vue, mais marchez selon la foi et selon l'Esprit du Seigneur. Être, vivre de l'Esprit, c'est une chose, c'est bien. Marcher, c'est encore mieux. Et être conduit, ceux-là sont les véritables enfants de Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu. Alors, frères et sœurs, ce matin encore, un enseignement concernant le combat. Et ça, c'est la démonstration très claire que pour être délié, il faut avoir eu une vraie repentance dans son cœur. Une vraie repentance dans son cœur. Pas seulement s'être repenti, mais abandonner les choses. Celui qui cache ses transgressions, dit l'Écriture, Proverbe 28:13, ne prospérera point. C'est un futur. Pas de possibilité de prospérité spirituelle si les fautes sont cachées et si les transgressions. Une transgression, c'est un péché répété et pratiqué. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. Mais celui qui les avoue, qui les confesse et surtout les délaisse, obtient miséricorde de Dieu. Amen. Voilà le bon chemin. Voilà la bonne voie droite et juste. La voie de la justice, c'est celle-là. Et nous avons, nous, le devoir, dans nos cœurs, d'annoncer le vrai évangile, pas le faux. Peu importe, si tu annonces le vrai évangile, que tu as 3 âmes réellement qui se convertissent au lieu d'en avoir 1000, gloire à Dieu pour ces 3 âmes. Les 997, laisse-les faire, le Seigneur les attend à un coin de leur vie. Que Dieu vous bénisse.
Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net